Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
Les experts sont là pour vous, même le dimanche. Bonjour à Christine Béroux.
Bonjour.
Anne Le Gall.
Bonjour.
Et Roland Perret.
Présent.
Anne Le Gall, la tendance normalement en ce début d'année, c'est bien sûr les fameuses bonnes résolutions. Mais est-ce que cette année, comme il y a eu une anus horribilis en 2020, ça a encore un sens?
C'est la vraie question, hein, parce qu'il n'y a pas de salle de sport, donc pas possibilité de sculpter son corps. Pas non plus la possibilité de débuter une activité créative, le piano, le dessin, la poterie, ou alors ce sera par visio, c'est pas terrible. Voyager, élargir son réseau social, bon bah on verra ça plus tard.
Celle qui nous sape le moral, généralement, c'est Christine. Hein,
Et puis, de toute façon, est-ce bien raisonnable en 2021, avec toutes les contraintes sanitaires que l'on a, de se fixer un objectif supplémentaire, de se mettre encore la pression? Franchement, j'avais un doute, alors j'ai appelé le professeur Michel Lejoyeux, chef du service de psychiatrie de l'hôpital Bichat à Paris.
Les résolutions ne sont pas une pression, ce sont, dans la meilleure des formes, des petits défis de santé que l'on se lance. Donc c'est très bien, dans une année où notre santé est déjà menacée par l'épidémie du Covid, que de se dire, on va faire des petits gestes bénéfiques à sa santé, et moi je vous y invite, ça va au contraire être une sorte d'encouragement ou d'auto-entraînement à cultiver comportements et émotions positives.
Voilà, donc on peut y aller. Après, l'art, c'est de ne pas trop charger la barque non plus et d'adapter les objectifs. Au lieu d'aller à la salle de sport, le professeur Lejoyeux dit on peut déjà bouger 6 minutes par jour, parce que ça augmente de 20% le bien-être, et c'est immédiat. Et puis lui, pour sa part, il trouve très bien l'initiative du janvier sobre, le janvier sans alcool. Ouais. C'est un défi qu'il s'est lui-même fixé pour cette année.
Moi, j'attends carrément. Combien de bonnes résolutions peut-on prendre au maximum?
Idéalement, une seule. À tous les petits, les coachs de vie le disent, plus c'est modeste, plus on a des chances de tenir. Et puis pour que ça marche, il faut que la résolution soit concrète, qu'elle nous fasse plaisir et surtout que l'on puisse la tenir rapidement, au moins deux jours dans l'immédiat. Et si c'est pas possible, autant changer tout de suite de résolution.
Et quand on dit qu'il faut 21 jours pour en créer une nouvelle habitude, c'est vrai ça?
Alors ça, c'est empirique plus que scientifique, mais le professeur Lejoyeux trouve que c'est cohérent. Le cerveau a besoin comme ça de répétition pour ancrer les choses. Ce sera pas 21 jours pour tout le monde, mais il aime bien cette idée. Et l'astuce, en tout cas, c'est que la bonne résolution s'intègre dans l'emploi du temps, dans l'agenda. Voilà, on l'inscrit. Ça devient concret, c'est important, parce qu'il y a une autre réalité empirique, c'est qu'on met seulement un ou deux jours à ne pas tenir sa résolution.
Alors Roland, Roland, qui a des bonnes résolutions pour cette année, hein, Roland?
Oui.
A priori, les Français n'ont pas été privés du Père Noël, les familles ont même pu se réunir sans limite d'heure le 24 décembre, et pourtant une question de droit se pose: peut-on sans limite offrir à ses proches, ou pas d'ailleurs, des cadeaux de valeur sans que le fisc s'en mêle?
À votre avis?
Ça dépend du cadeau, non?
Ça dépend du cadeau. On a envie tous de crier oui, bien sûr, on peut recevoir tous les cadeaux qu'on veut, quelle que soit leur valeur, mais le fisc peut regarder de près certains cadeaux qui ne sont pas considérés dans le jargon fiscal comme des présents d'usage, alors que ce soit pour un mariage.
Oui,
c'est ce que dit le fisc. Alors que ce soit pour un mariage, des fiançailles, la réussite à un examen ou Noël, le fisc peut estimer que les sommes données ou les biens achetés dépassent largement les possibilités de ceux qui les offrent, et en ce cas, considérer qu'il s'agit de dons manuels qui doivent passer donc par la case déclaration.
Monsieur le fisc, il retient quel critère hein, pour dire que c'est disproportionné?
Alors en fait, le fisc ignore a priori rien, on le sait, du train de vie de tout le monde, et notamment de ceux qui donnent, donc des ressources, des habitudes de ceux qui ont offert le cadeau. Considéré alors par le fisc comme au-delà de leur faculté matérielle, il est vrai qu'il n'y a pas de barème, et pour cause, car il est très difficile à établir. Cela va se faire un peu au cas par cas.
Bon, pour éviter un redressement, là, on fait comment?
Alors, il vaut mieux, en cas de cadeau exceptionnel et important, de le déclarer sous forme de don manuel au fisc.
D'accord.
En un mot, il faut aller l'enregistrer auprès du service des impôts du donateur, la somme d'argent ou la valeur du cadeau. Alors, on connaît les exonérations fiscales quand c'est dans une même famille, pour des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, voire même s'il n'y en a pas des neveux et nièces, il y a 31 865 euros, donc c'est une belle voiture quand même.
Ouais.
Il y a plus beau comme voiture. Hein,
mais... Ah bon. Vous me direz quelle est votre voiture.
Pour rajouter un zéro. Le fisc a-t-il vraiment le pouvoir de vérifier les cadeaux, les sommes d'argent données comme ça, souvent de main à la main?
Il l'a pas vraiment, même si encore une fois il connaît bien l'état des ressources des uns et des autres. Ce sont souvent les héritiers mécontents qui le signalent au fisc le moment venu. Et là, il faut faire les comptes et tous les coups sont permis. Donc moi, je vous conseille, allez sur www.impots.gouv.fr, faites cette déclaration, on ne sait jamais.
Allez, après Noël, la galette des rois, Christine.
Oui, on ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, mais on va en bouffer tout le mois de janvier. Non, ce n'est pas la campagne de vaccination, c'est la galette des rois. Alors, dans les familles, c'est tout un rituel. Le plus jeune se cache sous la table, il désigne l'épars, c'est la mamie qui a la fève, les enfants pleurent, du coup, on en rachète une autre galette. Bah, le lendemain, l'aîné a la fève, ce qui coûtera plus tard 7 ans de thérapie à son petit frère. Sans compter ses parents qui ne mettent pas de fève dans la galette pour habituer leurs enfants à la réalité du marché de l'emploi. Bref, tout le monde connaît. Alors pour moi, ça représente beaucoup la galette des rois, parce que quand on est une femme en France, on a deux chances d'avoir une couronne. La galette des rois et Miss France. C'est vous dire que je compte beaucoup sur la galette des rois. Alors c'est un sujet sérieux, la galette, parfois même tabou. Je vous raconte, hier j'en ai mangé une chez ma tante et j'ai demandé « Et tu en penses quoi du docteur Raoult ?» Elle me dit « Oh non, pas de sujet qui fâche. » Alors je dis « Ok, très bonne ta galette, mais pourquoi de la frangipane et pas de la pomme ?» Et là elle me répond « Tu as raison, parlons du docteur Raoult. » Pour info, dans la frangipane, il y a 2/3 de crème d'amande et 1/3 de crème pâtissière. Donc méfiez-vous, la frangipane, c'est comme la victoire de Joe Biden pour Donald Trump, c'est dur à digérer. Et enfin, mini QCM, pourquoi il n'y a pas de fèves dans la galette de l'Élysée ? A, parce qu'Emmanuel Macron s'est déjà cassé les dents sur plein de trucs cette année. B, parce qu'en cette période de crise sanitaire, la fève est considérée comme un produit non essentiel. C, parce que dans une démocratie, on ne couronne pas le président. À votre avis ?
On ne couronne pas le président.
Voilà, bah c'est triste, ils n'ont pas de fèves pour une fois qu'ils avaient une occasion de s'amuser. Voilà.
Merci beaucoup Christine Bérou, qui donc ne mangera pas de galette des rois, on l'a compris.
C'est déjà fait.
Mais à la pomme peut-être.
À la pomme. Merci et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.